What is a final push?
We're not going to be supporting you any longer.
See, I wasn't going to phrase it like that, Lorraine, the way you phrased it.
But I have no job.
No, you have an internship that you say is going to turn into a job.
But I don't know when.
You graduated from college 2 years ago. We've been supporting you for 2 years, and that's enough.
Do you know how crazy the economy is right now? I mean, all my friends get help from their parents.
We are sympathetic to that.
Bienvenue dans J'ai pas sommeil, le podcast pop culture et féministe. Je suis Sophie Gliocas, je suis autrice. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet dont je suis très fan. À la base, je suis une grande fan des teen dramas et des séries young adult, mais depuis quelques années, je me suis prise de passion pour les séries sur les millennials. Sûrement parce que je le suis, une millennial, cette classe d'âge entre 25 et 35 ans qui a des souvenirs du 11 septembre, qui aura vécu la crise des subprimes, l'explosion du militantisme à travers les réseaux sociaux, les plateformes de SVOD comme Netflix, et aussi, qui aura connu Two Girls One Cup. Si vous ne savez pas ce que c'est Two Girls One Cup, n'allez pas voir sur Google, vraiment, évitez. Bref, force est de constater que cette génération, en grandissant, c'est devenu une niche marketing à part entière, et donc forcément, les séries ne dérogent pas à la règle. J'avais envie de vous parler des femmes et des séries sur les millennials, tout simplement parce que les femmes, elles sont beaucoup ciblées par ce type de produit, par les séries télévisées, sûrement parce qu'elles sont celles qui en consomment le plus. Faut savoir qu'une Française sur trois regarderait tous les jours ou presque une série télévisée contre un Français sur quatre. Et pourtant, je trouve que la représentation des meufs millennials, elle laisse vachement à désirer. Ce qui n'est pas étonnant puisque, de manière générale, la représentation des femmes laisse vachement à désirer dans les films, dans les séries, dans la pub, dans la littérature. Mais je suis pas convaincue par ce portrait qui est dressé de la meuf milléniale. Et en vrai, on va pas se mentir, je suis autrice, j'écris des personnages féminins, mais je n'ai encore jamais écrit de personnages féminins faisant partie de la génération des millennials. Pourtant, c'est ma génération et je la connais. Le problème, ou en tout cas comment je le ressens et je le perçois, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce de relation d'amour-haine avec ces personnages-là. Et je pense que la manière dont ces femmes sont représentées à l'écran depuis plus de 10 ans, ça a contribué. Et j'avais envie de revenir sur plusieurs étapes clés qui ont construit cette meuf millennials dans les séries, du moins à mon sens. Qu'est-ce qui lui fait autant défaut ?
I saw your Instagram and I figured you might come here, so I just want to apologize to you because I know I fucked everything up and I'm really sorry and I haven't been honest with you.
Pour pouvoir discuter de ce sujet, il va falloir qu'on fasse un saut dans le passé. On va remonter dans le temps, on va remonter à il y a 20 ans, lorsque le terme « millennial » n'était pas du tout rentré dans le langage courant. Parce que la meuf millennial, avant d'être une adulte, d'être indépendante, d'être autonome, c'était une enfant qui a rencontré, dès sa plus tendre enfance, des stéréotypes dans les œuvres de pop culture, et notamment un stéréotype hyper vivace, et elle a grandi avec, et pendant très longtemps, on lui a fait croire que c'était justement une femme à rebours de tous les autres stéréotypes qui étaient différentes. Et ce stéréotype-là, c'est celui de la Manic Pixie Dream Girl. Alors la Manic Pixie Dream Girl, qu'est-ce que c'est ? C'est un personnage qu'on retrouve beaucoup dans des films qui sont réalisés par des hommes, dont le seul et unique but, c'est de donner un peu un sens à la vie du protagoniste masculin. Ce sont des personnages féminins qui sont très paumés, délurés, un peu rigolotes, excentriques, qui ont un petit côté poétique et romantique parce qu'elles viennent perturber la vie du héros qui est souvent un gars qui se veut un peu gentil, un peu timide et elle va avoir cette étincelle de folie, ce grain d'originalité, d'excentricité qui va complètement le sortir de sa vie ordinaire et ennuyeuse et elles ne sont là que pour ça. Parmi les plus connus, on retrouve Natalie Portman dans Garden State de Zach Braff qui donc date de 2004, Clémentine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind de 2004 aussi, Kirsten Dunst dans Elizabeth Town qui est vraiment l'image même de ce trope-là, donc de 2005. Et je pense que le personnage de la Manic Pixie Dream Girl qui a été la plus popularisée, ça reste sans aucun doute Zoé Deschanel, donc Summer dans 500 jours ensemble, où elle joue donc aux côtés de Joseph Gordon-Levitt, parce qu'il y a vraiment une double lecture du film où on peut autant la voir comme justement la figure même de la Manic Pixie Dream Girl, ou se dire que c'est vraiment le regard que Tom pose sur elle qui est très problématique. Donc c'est un personnage qui a pris beaucoup d'ampleur durant les années 2000, ce qui fait qu'on a commencé à avoir justement des critiques sur ce type de personnage féminin durant les années 2010.
Oh, I'm just having trouble wrapping my head around the reality of this situation. Then you're here. Then you're real.
pretty incredible.
Well. Kiss me, stupid.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce type de trope a disparu. Dans les séries, on pointe souvent du doigt le personnage de Jess dans New Girl, donc une série qui a débuté en 2011, qui est là encore interprétée par Zooey Deschanel. C'est vrai qu'elle a un côté, moi j'aime beaucoup appeler ça, une espèce de folie douce, quoi. C'est une excentricité un peu mignonne, ce côté « oh là là, je suis un peu paumée dans ma vie, mais oh, je reste rigolote ». Les années 2010, c'est vraiment une époque charnière pour les meufs millennials, puisque... elle rentre pour la plupart dans la vingtaine, donc elle commence à travailler, elle commence à pouvoir prendre les rênes de certaines œuvres audiovisuelles, et donc à pouvoir porter leur regard et leur discours auprès des médias. Et je pense qu'il y a une série qui a vraiment été l'avènement de ça, qu'on peut critiquer pour plein de choses, mais qui a vraiment marqué un tournant et mis en avant la meuf milléniale, et pour moi c'est la série Girls. De 2012. Donc en 2012, on a cette série un peu ovni qui débarque sur HBO, qui est réalisée par Lena Dunham, qui devient la meuf à suivre. Lena Dunham, elle est problématique pour plein de choses, elle a depuis multiplié les frasques et les polémiques, mais en tout cas, si on en reste sur cette série, c'est une série qui a vraiment pris à revers l'image très new-yorkaise et glamour de Sex and the City, en proposant une nouvelle représentation des New-Yorkaises. Alors c'est pas une représentation parfaite, c'est pas la représentation la plus diversifiée, mais on se retrouve avec des jeunes adultes de 20 ans qui essayent de rentrer dans la vie active juste après la crise des subprimes, dont la vie n'a rien de parfaite et d'idyllique. C'est des nanas qui sont paumées, qui sont fauchées, qui ont une vie professionnelle qui les déçoit, ne parlons même pas de leurs relations amoureuses et sentimentales. Et elle a quelque chose de très réaliste. Et la série, elle va justement être acclamée pour ça, par la critique, puisqu'elle propose une toute nouvelle esthétique. Et pourtant, déjà à l'époque, au fil des saisons, il va y avoir des critiques qui vont se cristalliser autour de cette série, autour de Lena Dunham et de la manière dont elle représente les femmes de sa génération. Il y a la chaîne YouTube The Take qui le résume très bien dans une de ses vidéos. Lena Dunham, ce qu'elle laisse entreapercevoir de sa génération, consciemment ou non, c'est que ce sont des jeunes adultes qui seraient très égoïstes, très égocentrés, c'est que le monde part à la dérive, mais leur problème, c'est leur vie sentimentale, leur carrière professionnelle. Ils ont des ambitions absolument irréelles, absolument démesurées, alors qu'ils vont pas du tout bosser pour parvenir justement à réaliser leurs rêves. Ils sont pétris de privilèges qu'ils ne voient même plus. Bref, les millénials seraient absolument insupportables. Donc on a un trope qui émerge à ce moment-là et qu'on va appeler la Messier Millennial Woman. Et le pire, ou le plus intéressant, c'est que certaines séries vont jouer souvent, consciemment ou non, avec ces critiques. Il y a une série qui a décidé d'être totalement jusqu'au boutiste concernant ce trope de la Messier Millennial Woman, c'est la série Fleabag en 2016, qui a connu un succès retentissant, qui a été acclamée par la critique. Je pense vraiment que si on doit parler d'une série qui a conscience de tous les stéréotypes qui englobent la Messy Millennial Woman, qui en repousse les limites, qui en joue, c'est cette série qui a été réalisée par Phoebe Waller-Bridge qui joue l'héroïne. Le personnage de Phoebe Waller-Bridge, qu'elle joue extraordinairement bien, c'est celui d'une femme au début de la trentaine qui a une vie amoureuse très compliquée, qui n'est pas une meuf particulièrement sympa ni très intelligente, qui est dévorée par des traumas, qui a énormément de mal à les gérer, et puis qui a une petite vibe féministe, mais pas trop quand même. Et donc le fait d'être une anti-héroïne aussi paumée et destructrice, c'est clairement montré dans cette série comme un acte subversif.
So I pose the question to the women in this room today. Please raise your hands if you would trade 5 years of your life for the so-called perfect body.
We're bad feminists.
Mais quand j'ai terminé cette série, je me suis vraiment posé la question, est-ce que la femme milléniale, elle ne peut donc être représentée d'une manière supportable que lorsqu'on la pousse dans ses excès, au point qu'on assume son aspect insupportable, mais donc que lorsqu'elle est tournée en dérision? Est-ce que c'est que dans des moments on va rire avec elle, je ne vais pas dire rire d'elle, puisque voilà, le but quand même de Fleabag, c'est de se retrouver dans certains éléments de l'héroïne, dans certains de ses traits de caractère, mais est-ce que ce n'est que lorsqu'on est là pour rigoler qu'on peut la supporter? Eh bien, pendant quelques années, j'ai été portée à croire que oui. En 2018 sort un petit livre qui devient rapidement un best-seller, ça s'appelle Normal People. 2 ans plus tard, il est adapté en série. Et puis, une seconde adaptation d'un autre roman de Sally Rooney ne tarde pas, c'est l'adaptation de Conversation with Friends. Je trouve que Sally Rooney parle à notre génération et de notre génération avec beaucoup de justesse et d'émotion. J'adore Sally Rooney, je trouve que son regard sur notre génération et sur notre époque est très juste et très intéressant. J'aime comment elle développe ses personnages, comment leurs relations se tissent. Et Normal People est l'un de mes romans et l'une de mes séries préférées. Et pourtant, j'entends les critiques qui ont tendance à dire que les héroïnes de Sally Rooney sont toujours les mêmes. Ce sont des jeunes femmes très minces qui clairement pourraient sortir d'un Tumblr où dans les années 2010 on portait au nu l'esthétique de la maigreur et de la peau très pâle. Elles sont très cultivées, elles sont souvent très paumées, assez timides, elles parlent pas beaucoup. On sent qu'elles souffrent intérieurement et elles dégagent cette souffrance. Sur internet, on lui a donné un nom. C'est la Waif Girl. C'est celle qui est suffisamment torturée pour être intéressante, mais pas suffisamment pour qu'on la fuie. Elle est souvent privilégiée, très cultivée, et puis elle s'abandonne dans ses livres et ses vieux films, et dans l'art, dans la culture. Elle s'inscrit vraiment dans un héritage de Sylvia Plath, donc la poétesse dépressive. Et je pense même que son meilleur portrait, c'est pas Marianne dans Normal People, mais Frances dans l'adaptation de Conversation with Friends. Comme le dit la critique Raisin O'Connor, elle est normale mais extraordinaire, sans raison précise. Elle est intelligente sans effort, mais attention, elle n'est pas une geek même si elle prétend l'être. Elle est socialement bizarre, mais toujours le centre de l'attention. Elle est asexuée, mais sexy. Elle est fade, mais elle est hot. Et elle est vierge, mais elle est séduisante. Alors, je vous arrête tout de suite. Je cherche à duper personne. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai adoré Normal People. J'ai aussi beaucoup aimé Conversation with Friends. Mais il faut être honnête sur ce genre de personnage féminin qui serait un peu un mélange de la vierge et de la putain complètement hors sol. Et je trouve que c'est important de souligner que Sally Rooney, qui est une autrice extrêmement engagée, qui a vraiment une conscience politique, elle n'échappe pas à ce genre de stéréotype féminin. J'approche de la trentaine et j'ai un peu commencé à faire mon deuil de, espérer que les meufs millénials seraient représentées d'une manière juste et pertinente dans les séries télévisées. Jusqu'à ce qu'une série vienne un peu changer la donne. Ça s'appelle Everything I Know About Love. Et cette série, elle arrive à montrer la vulnérabilité et l'authenticité des meufs millénials sans en faire des caisses. Alors, Everything I Know About Love, c'est une série qui est adaptée du livre de Dolly Alderton, Tout ce que je sais sur l'amour, qui est sorti en 2018. J'avais beaucoup vu passer ce livre sur les réseaux sociaux et je l'ai lu début 2022 et j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré la plume de l'autrice. Je l'ai trouvée très drôle, très franche, pleine d'autodérision, pleine de sensibilité, d'humour, d'émotion. C'est un témoignage sur sa vingtaine qui est vraiment intéressant et qui est marqueur d'une époque, celle des millennials. Alors cette série, elle est considérée comme le nouveau Sex and the City, version londonienne et en plus réaliste. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans la manière dont sont construits les personnages et dont sont narrées les amitiés et les relations, du moins dans la première saison, puisque pour l'instant on n'est qu'à une saison. Et pour avoir lu le bouquin, je devine les thèmes à venir, qui sont pas simples du tout. Et j'ai hâte de voir ça, de voir comment ça va être transcrit à l'écran. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la série ne tombe pas du tout dans les travers de Girls. Les défauts de Maggie sont vraiment montrés d'une manière pure et bienveillante. On la pousse pas jusqu'à être insupportable, jusqu'à être quasiment ridicule ou même grotesque. Cette série, son grand point fort, c'est qu'elle a réussi à créer un espace à l'écran suffisamment crédible et authentique et bienveillant pour qu'on puisse aborder des sujets où les personnages féminins montrent leur vulnérabilité sans que ce soit risible ni insupportable. This girl is my childhood sweetheart. Shouldn't there be a word for it? Friendship? Yes! C'est quelque chose en fait qui commence à être exploité dans les séries qui mettent en avant des meufs millennials et que je trouve très prometteur. Je pense moi personnellement que les anti-héroïnes elles ont leur place à l'écran parce qu'elles disent énormément de notre société et des femmes. Encore faut-il qu'elles se diversifient bien sûr. Je pense notamment à Arabella dans I May Destroy You de 2020 qui est un personnage qui est absolument brillant. C'est un personnage féminin qui est absolument incroyable dans la manière dont il est écrit, qui a une vraie force de caractère et qui en même temps est tout en fragilité, qui montre une palette d'émotions qui est incroyable, c'est vraiment très nuancé, c'est un parcours de vie, une trajectoire de vie qui est pas du tout moralisatrice, qui tombe pas du tout dans le pathos. Je pense que le portrait de la jeune femme bourgeoise qui a le spleen a fait son temps, qu'on peut montrer la dépression et les maladies mentales d'une autre manière. Mais parfois on oublie que derrière cette exigence qu'on attend des fictions qui mettent en avant beaucoup de femmes, qui sont souvent créées par des femmes, en fait on attend peut-être beaucoup plus d'exigences de la part des femmes créatrices que des hommes créateurs. Et j'espère sincèrement que c'est quelque chose qui va marquer en fait les années 2020, c'est enfin avoir des meufs millennials qui se démarquent dans les séries.
Where's the liquor?
Forget the liquor, wear your shoes. Where's Cheyenne?
She robbed us.
What?
You lying.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou d'avoir visionné ce 3e épisode de mon podcast Pop Culture et Féministe J'ai pas sommeil. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour le 4e épisode. Salut!